Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, je discute avec Lionel Elbaz, dentiste de formation et maintenant associé et Chief Operating Officer du réseau national de centres dentaires Clinadent. Son rôle est de soutenir la croissance de l'entreprise en garantissant une excellence des soins couplée à une écoute et un confort du patient hors du commun. Et ce, à travers les 16 cliniques du territoire national. En grand passionné d'entrepreneuriat qu'est Lionel, il partage tous ses conseils pour créer une culture d'entreprise forte dans la santé et mettre l'expérience patient au cœur de son business model. Dans cet épisode, Lionel nous explique comment s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres industries pour améliorer l'expérience patient, comment apprendre à rebondir après un échec, comment garder une culture d'entreprise forte quand son business grossit. Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lionel Elbaz, associé et CEO de Clinadent. Donc Clinadent, un réseau national de centres dentaires. Salut Lionel, comment tu vas? Bienvenue sur cet épisode.
Merci, salut Jean-Baptiste, merci de me recevoir. Je suis très content de faire cet épisode depuis qu'on en parle. Ça va très bien. J'ai hâte d'échanger sur mes expériences et de pouvoir partager avec les gens qui nous écoutent, surtout dans le domaine de la santé.
Merci à toi. On va du coup revenir sur tes premières expériences dans la santé, donc ta formation et de fil en aiguille, comment tu en es arrivé à toi booster les activités de Clinadent à travers tes expériences entrepreneuriales, tes différents apprentissages. Qu'est-ce que tu as retenu de ces expériences? Et puis, partager vraiment des conseils concrets pour tous ceux qui veulent se lancer et entreprendre dans la santé. C'est parti, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens, un petit peu expliquer la vision que tu avais quand tu t'es lancé dans les études, comprendre toi quelles étaient tes motivations et puis tout simplement comment tu en es arrivé à Clinadent. Voilà.
Ok, très bien. Moi, je m'appelle Lionel Elbaz. Mon background, en gros, comment je suis arrivé dans la santé, c'est très simple. Je suis dans. Alors, souvent, c'est dans les familles, il y a souvent des médecins, etc. Et d'ailleurs, on me pose souvent la question, est-ce que tes parents sont dentistes ou quoi? Et la réponse est non. Je suis dans un écosystème où on m'a toujours dit, de toute façon, c'est médecine ou droit. Donc le droit, c'était mort pour moi, et donc je me suis orienté vers la médecine, ce qui me plaisait beaucoup. Et il s'avère que mon frère a fait dentaire avant moi, et j'ai pu me projeter en allant très tôt voir ce qu'il faisait. J'ai trouvé ça vraiment vraiment intéressant, mais faut pas se voiler la face, c'était intéressant le métier, et c'était aussi cool d'avoir une qualité de vie assez agréable, sachant que moi je suis quelqu'un où j'aime pas trop avoir un boss ou quoi, quelqu'un qui me dit quoi faire et avoir les mains liées, voilà. J'avais besoin d'un truc où je pouvais travailler pour moi, et la dentisterie s'y prête complètement. Donc voilà, je suis arrivé là-dedans un peu comme ça, toujours bercé par, voilà, il faut que tu fasses médecine, moi je savais même pas du tout ce que c'était que entreprendre, je savais même pas ce que c'était les écoles de commerce, moi il y avait université de médecine, je connaissais rien d'autre. Y a un truc qui me fait rire, enfin aujourd'hui ça me fait rire, mais avant je pense que c'était un peu ridicule. C'est quand j'étais en une prépa en terminale, pour vous montrer d'où je viens, pour remonter le niveau en maths pour être capable d'avoir le niveau suffisant au bac, donc j'étais vraiment nul. J'ai fait cette prépa, sauf que c'était une prépa où les gens étaient très très chauds. Et en fait, c'était une prépa de perfectionnement. Donc moi, j'étais égaré. Ah, et le prof dit, qui est-ce qui fait HEC l'année prochaine? Bon, eux, ils sont là, ils sont sûrs d'avoir le bac. Moi, j'étais là, j'avais pas cette certitude. Et en fait, je savais pas du tout ce que c'était HEC. Je savais même pas que c'était trois lettres. Je pensais que c'était un mot entier. Enfin, j'étais là déjà pour avoir mon bac. Aidez-moi à avoir mon bac, les gars, s'il vous plaît. Avant, et les gens étaient au-dessus, quoi. Bref, je connaissais pas du tout ce milieu d'école de commerce, ce milieu entrepreneurial, toutes les écoles d'ingé, etc. J'étais à des années-lumière de ça, okay. Mais j'y suis arrivé progressivement au fur et à mesure. Voilà.
Hyper intéressant parce que du coup c'est comme tu sais sur ce podcast on a vraiment des profils très variés et donc c'est ça qui justement permet d'avoir des expériences différentes à chaque fois des apprentissages qui diffèrent aussi. Donc toi comment tu en es arrivé donc de fil en aiguille à te renseigner sur toutes ces thématiques liées à l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas justement si ça t'intéressait par la suite, poursuivi tout simplement dans le dentaire ou complètement abandonné, est-ce que tu peux nous partager un peu ton ressenti
Ouais,
là-dessus?
bien sûr. Bah, au début, avant d'arriver en dentaire, on arrive en médecine. Après, on passe un concours et en fonction de ce qui résulte de ce concours, on peut avoir médecine ou dentaire. Donc, pour avoir dentaire, bon, en tout cas dans l'université où j'étais, il fallait arriver à un top score. Parce qu'il y avait un nombre de places limité, en fait, c'est le principe du numerus clausus. Il s'avère que je ne suis pas du tout un bon étudiant, un bon élève. J'ai redoublé maintes et maintes fois, je me suis fait renvoyer des écoles, internat, enfin bref, la totale. Et quand je suis arrivé en médecine, enfin, tout le monde m'a pris pour un fou, parce que qu'est-ce que lui vient faire en médecine? Ça me fait penser à un truc qu'une fois j'ai revu un ami du lycée, après avoir réussi mes examens, et il me dit, oh, il me croise, il me dit, ah Lionel Vaz, qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, je suis dentiste. Il me dit, si toi t'es dentiste, ma mère c'est la reine d'Angleterre. Je dis, putain, à ce point-là, j'ai une image de merde. Bon, bah, c'est pas grave. Mais pour vous dire, et bref. Et donc, je suis rentré dans ce truc-là et je me suis dit, c'est pas compliqué. Bon, je suis arrivé en truc, j'avais quand même 19 ans, donc je n'étais pas en avance. Sachant que j'avais un an d'avance de base, donc c'est pour te dire. En fait, je me suis dit, j'ai deux options, en fait. C'est soit je m'enferme comme un fou et je travaille comme un âne pour réussir cet examen. Et en fait, je me suis dit, tu travailles 2 ans et après, par la suite, ta vie, elle sera un peu plus tranquille. Ou bien, tu fais un peu comme tout le monde, tu kiffes, tu sors, tu vois tes amis, etc. Et dans ce cas-là, bah, potentiellement, tu vas potentiellement rater ce concours, parce qu'au final, c'est un concours. Donc voilà, je me suis mis dans ce mindset-là. Et pour moi, dans ma tête, j'ai vrillé. En fait, moi, je suis quelqu'un de très extrême. Je suis extrême d'un côté ou extrême de l'autre. Et là, je me suis mis bah, à fond là-dedans. Dans ma tête, c'était je réussis ou j'ai raté ma vie, en fait. Donc quand tu es comme ça et tu te dis il n'y a pas une autre option, t'as pas le choix que de réussir, donc tu te mets dans des états, je sais pas, je dormais à peu près 3 heures par nuit, 4 heures par nuit, j'étais shooté au Guronzan,
Ok.
c'était n'importe quoi. Mais ça,
Extrêmement, ouais.
ouais, mais ça m'a permis d'arriver au résultat que je voulais. Je pense pas que ce soit des études pour des gens intelligents. Il y a toujours, allez, il y en a toujours deux, trois dans la promo qui sont révolutionnaires, les gars travaillent 4 heures et c'est fini. Mais je pense que c'est des études pour des mecs qui ont la dalle, qui s'acharnent. Et je pense que tout le monde peut réussir ce genre d'études. Voilà, c'est si quelqu'un comme moi qui a foiré j'ai redoublé des classes qu'on peut pas redoubler. J'ai redoublé, je sais plus, c'était la première où tu as juste à normalement décider si tu veux passer au-dessus, etc. Je crois que c'était comme ça à mon moment. Et même ça, ils m'ont imposé de redoubler. Ils m'ont dit sinon, on te fait passer en candidat libre. Enfin bref, j'étais vraiment pas une référence. Et en fait, in fine, si vraiment tu te donnes une discipline où tu te dis, j'ai pas le choix, je dois faire ça, j'ai pas d'autres options, et ben je pense que ça amène à réussir. Je pense que aussi, on parlait tout à l'heure d'où je viens, etc. Et c'est un discours qu'on entend régulièrement, mais quand on ne vient pas d'un milieu aisé, entre guillemets, t'as la niaque, quoi. Enfin, je ne suis pas le premier à le dire, je ne serai certainement pas le dernier. Mais
Non, c'est
et pourtant, j'ai été dans des écoles, tu vois, bon, vu que c'était des écoles. Bon, tu sais, au bout d'un moment, quand tu es viré de toutes les écoles, tu te retrouves dans des lycées hors contrat. Donc, je me suis retrouvé dans ces lycées-là, sauf que c'était avec je sais pas, une population ultra aisée. Ils n'avaient pas cette mentale où, en fait, ils ne connaissent pas être dans la merde. Et donc, du coup, je peux comprendre, si tu veux, que pour eux, ça les fait peur. Tu vois, par exemple, j'aurais moins de freins à tenter des choses parce que j'ai été dans la merde et que je sais ce que c'est et que du coup, bah, c'est pas un inconnu pour moi, donc cette peur de l'inconnu, je l'ai moins, versus quelqu'un qui a toujours été tranquille, qui se dit, bah, attends, si je commence à faire ça et que je me retrouve dans la merde, qu'est-ce que ça va donner? Coup, c'est une chance, ouais, c'est une chance dans ma malchance, tu vois, déjà... d'avoir ce... Ouais,
cette prise de risque, ouais, ou cette envie de cette niaque. Okay. Pour comprendre un peu, pour qu'on avance sur toi, tes expériences, mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter, donc, toi, c'était quoi tes premières expériences donc pro et entrepreneuriales, si tu as eu des premiers projets, puis bah, par la suite, comment tu en es arrivé à ton job actuel?
Ouais, bien sûr. Expérience pro uniquement entrepreneuriale ou expérience pro tout court, parce que j'ai commencé à bosser à 15 ans. Donc,
donc après, ça dépend. S'il y en a eu beaucoup, est-ce que tu peux m'expliquer les apprentissages, ouais, qu'est-ce que tu en as tiré jusqu'à tout ce
qu'on a dans l'histoire? Je pense que ça m'a apporté énormément. Je pense que le fait d'avoir travaillé très jeune, bah, déjà pour pouvoir me payer mes vacances ou n'importe quelle connerie que je voulais, fallait bosser, et je pense que tout de suite ça m'a mis dans le bain, en fait, de comprendre ce qui se passait dans le monde réel. Donc c'était pas des boulots vraiment qui donnent envie, tu vois, ouais, gratifiant ou quoi. Je portais des cartons, je travaillais au McDo, je me suis fait virer du McDo d'ailleurs, ça c'est un... Voilà, je vais parler pas mal des échecs, parce que moi je suis le produit de l'échec, en fait. Moi, je suis un fruit de l'échec, et je pense que l'échec est le chemin qui amène au succès. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup, qui est vraiment ma motivation, que j'utilise à chaque fois, que je répète et que je partage à plein de gens. C'est un expert est une personne qui a commis toutes les erreurs possibles dans un domaine très restreint. Et ça, j'ai commencé à me l'appliquer quand j'étais dentiste, et je vais y venir. Mais bref, oui, j'ai eu plein d'expériences plus jeunes. Je pense que ça m'a mis le mental, vraiment, voilà ce qui se passe dans le monde réel. Et arrivé ensuite dans ma première expérience entrepreneuriale, disons, où j'ai vraiment voulu build un truc, c'était après mes études de dentaire, forcément. Parce que quand tu es en médecine, pendant mes études de dentaire, mais après mon concours de médecine, parce que là, tu n'as vraiment juste pas de vie, quoi. Une fois que j'avais validé ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire de mon temps, mis à part mes cours, les TP et aller dans des cabinets, etc. Je suis quelqu'un qui est assez touche à tout, je suis très curieux, il y a plein de choses qui m'intéressent. Donc du coup, je me suis orienté vers la mode, bizarrement non, parce que de base, avant de choisir médecine, je voulais soit faire la mode, soit faire médecine. Bon, j'ai choisi la sécurité parce que je me suis dit, quitte à, tôt ou tard, si je réussis en médecine, je pourrais revenir dans la mode, mais l'inverse n'est pas vrai. Donc du coup, je suis parti dans ce truc-là, et je suis parti sur un truc qui n'a rien à voir, où je connaissais que dalle. C'est créer une application, un réseau social de mode. Et en fait, je pense que j'ai fait toutes les erreurs possibles en faisant ce projet. Comment ça m'est venu de faire ce truc-là?
Ouais. Tu connaissais rien à l'entrepreneuriat.
Ah, mais j'y connaissais que dalle, j'y connaissais rien aux applis, je trouvais juste ça très cool. C'était le moment où Instagram commençait vraiment à péter. Je me suis dit, les gens n'arrêtent pas de mettre des photos de leurs fringues, taguer leurs fringues, leur style, leur truc. Moi, je mets ça, toi, tu mets ci. Où est-ce que je peux trouver ces fringues? Et je me suis dit, putain, il y a un truc à faire. Moi, c'est mon domaine, j'adore la mode. Mon meilleur ami est dans la mode, un très, très bon poste, etc. Je me suis dit, voilà, on peut faire un truc. Et j'ai voulu m'orienter sur ce truc-là. Sauf que avant d'arriver dans la mode, en fait, ce que j'avais pas compris, c'est que je faisais pas de la mode. C'était de la tech, c'était du développement, des applications, etc. Et donc là, j'ai commencé à bosser sur des trucs, mais de niveau moins 1, quoi. Genre, je savais pas faire un rond sur Photoshop. J'ai commencé à regarder des vidéos, en fait, sur YouTube. Tous les soirs, en fait, je faisais mes cours. Donc les cours, c'est jusqu'à genre 18h, un truc comme ça. Ensuite, j'allais en cabinet voir mon frère travailler, parce que ça m'intéresse quand même, ce métier, jusqu'à 20h, 21h. Là, il se barrait. Moi, je restais au cabinet. Je regardais des vidéos YouTube jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin. Et j'apprenais comme ça, partant de la base, quoi. Ouais. Et donc, j'ai commencé à faire ce truc-là. Je suis tombé sur un truc qui s'appelle The Family. Et je trouve ces vidéos qui sont vraiment assez inspirantes. Et j'ai commencé à regarder ces trucs-là. Et je me suis dit, putain, ils font des talks et tout. Je vais y aller un jour où je ne serai pas de garde, où je ne serai pas à l'hôpital, etc. C'était rare. Donc, du coup, j'ai réussi à en choper une. Je me suis barré de l'hôpital. J'ai été à la première, je me rappellerai tout le temps, à la première conf de The Family que j'ai vue. Je crois que le sujet, c'était sur la fintech, donc un truc qui n'a rien à voir. J'ai juste été mettre les pieds dans le plat.
1 km de ce que tu fais.
Mais rien à voir. Je me suis dit, je veux juste. Comment ils résonnent, comment ils parlent, comment ils fonctionnent. Ouais. Nous, c'est un truc qu'on nous dit, nous, pour comprendre, nous, c'est les cellules, voilà, tu as des cellules, tu as la biologie cellulaire, tu as l'histologie, t'as, etc., etc., la biophysique. Mais jamais on va te parler de tout le reste. On va te parler que de la biologie et ce qui est lié.
C'est le principe. C'est
le principe. Mais par exemple, alors anecdote, sauf que quand tu sors des études de dentaire et que tu arrives dans ton cabinet, mine de rien, t'entreprendre dans ton cabinet. Tu dois être rentable, tu dois connaître tes coûts. Mais ils te font un cours. Alors, il y en a un cours sur ça, qui est à la fin des 6 ou 7 ans d'études, qui dure une heure, qui s'appelle Introduction à la vie, active de cabinet. En une heure, tu vois rien. Tu as bien compris que c'est. T'es lâché comme ça. Bref, je suis arrivé dans ce truc-là de The Family. Je comprenais que dalle, ils employaient des termes, j'en comprenais, mais 1 sur 4. Je me suis dit, mais qu'est-ce. Dans quoi je me suis embarqué, je fais n'importe quoi. Bon, après, moi, je suis un peu bullish, ça veut dire que quand j'ai un truc dans la tête, il faut que je le fasse. Parfois, c'est bien, parfois, c'est un défaut, mais je n'ai jamais l'en prendre comme un point positif. Mais voilà, donc j'ai commencé, et c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans ces trucs-là, à rencontrer du monde, à élargir un peu mon écosystème, parce que du coup, j'étais dans un écosystème uniquement médical, dentaire. Alors, médical, parce que ceux qui sont pas allés en dentaire sont en médecine, mais on a quand même fait les années ensemble, donc on reste assez proches. Mais à part ça, c'est zéro info sur l'entrepreneuriat. Bref, j'ai commencé à faire tous ces trucs-là.
Et donc,
j'ai commencé à faire tous ces trucs-là.
Et puis en aiguille, qu'est-ce que ça a mené vers où ça t'a mené tous ces projets entrepreneuriaux, ouais.
Et ben, j'ai commencé à faire ces trucs-là, ça m'a mené vers plein d'erreurs. j'avais mis de l'argent de côté, plus je m'étais un peu endetté pour payer un développeur qui m'a juste arnaqué parce que j'y connaissais que dalle, qui m'a rien pondu, qui a disparu, et voilà, ça m'a coûté 30 000 euros. C'est 30 000 euros qui m'ont appris des choses dans la vie. Mais après, j'avais une chance, entre guillemets, où je me suis dit, je suis dans un métier où, grosso modo, j'aurai pas trop de problèmes plus tard. Tant pis si ça me coûte X mois de travail pour récupérer ces 30 000 euros où je viens de me faire avoir. Versus quelqu'un qui peut-être va se dire, moi, je gagne 2 000 euros par mois, c'est chaud, je peux comprendre. Et je me suis dit, je me suis saigné pendant 2 ans pour pouvoir arriver à get ce job. Maintenant que je suis dans les rails, je vais m'autoriser des excès, voilà. Mais c'était un peu réfléchi quand même. Bref, et c'est là où j'ai commencé à comprendre un peu le développement, les gens qui codent, mais pas le code en soi, mais tout l'écosystème qu'il y avait autour. Les postes qu'il faut, les technologies, tous les outils qui sont à disposition, etc. Les trucs d'AWS, tout ça que je connaissais pas du tout. Et c'est comme ça, en fait, en mettant les pieds dans le plat. Le côté tech, j'étais à la strada totale. Et en fait, en mettant les pieds dans le plat, tout simplement, tu nages, tu t'enfonces, mais tu commences à avoir des skills, à comprendre des choses. Et au fur et à mesure, les gens te parlent. Ah ouais, c'est vrai, j'avais entendu ce mot, etc. Hop. Et au fur et à mesure, tu arrives à comprendre et à rentrer dans cet écosystème. Et une fois que tu rentres dans cet écosystème, là, du coup, c'est un peu plus souple. Parce que tu as des gens qui t'expliquent, qui te présentent à d'autres gens. Ah, mais ça, c'est facile, attends, je te présente lui. Et là, tu commences à arriver à ce truc intéressant. Bien entendu, ce projet d'application, alors j'ai fait l'application, etc., ça s'est cassé la gueule. Par contre, j'avais fait une soirée de lancement dans une boîte parisienne qui s'appelle Bagatelle. Voilà, c'est une super boîte qui regroupe pas mal de monde. Et j'avais réussi à décrocher, de faire cette soirée en partenariat avec le club, donc sans débourser un euro en fait, mais j'avais j'avais annoncé que je devais voilà, mettre à dispo des t-shirts, ça restait à la mode, des t-shirts faits sur mesure, etc. Et in fine, ce truc a super bien marché, en fait. Donc, en fait, après, je suis parti sur, j'ai commencé à vendre des t-shirts, etc. J'ai bifurqué le modèle, en fait.
Complètement à côté, quoi.
Ouais, j'ai bifurqué le modèle, okay. J'ai vu un truc qui était attractif, etc. Mais bon, bref, voilà, ça c'est comment j'ai commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat. Après, je me suis dit, bon, je vais quand même garder mon job. Donc, j'ai fini mes études. J'ai commencé à bosser en cabinet. Et donc là, j'étais dentiste. Et je me suis dit, bon, bah, au bout de 2 ans, je me suis dit, là, je commence à voir les limites du métier. Et les limites du métier, c'est que c'est redondant. C'est que, enfin, c'est redondant, oui et non, mais c'est grosso modo, tu es dans un canal où le patient arrive au final. Tu fais ton plan de traitement, tu traites et tu contrôles par la suite, voilà. Mais je me suis dit, je suis réduit à mes 2 mains, je ne peux pas faire plus. Et je voulais expand. Je voyais mes potes à côté qui faisaient plein de trucs hyper intéressants, pas dans le dentaire, justement. Et j'ai la chance d'avoir ces amis-là. C'est des gens hyper inspirants, comme mon pote Damien qui a fait Save. Et je voyais ces trucs et j'allais voir quand ils présentaient, etc. Je trouvais ça ouf. Je me suis dit, putain, mais on peut pas faire un truc similaire dans le dentaire.
Tu voyais ce qui se faisait à côté.
Ouais, je voulais absolument mixer les deux, quoi.
Ouais, et ça, c'est un truc assez intéressant et que beaucoup de professionnels de santé partagent. C'est que si, en fait, ils adorent leur travail, mais s'ils pouvaient diminuer la part pour faire, par exemple, je sais pas, 2 jours dans la semaine sur vraiment ce travail qu'ils adorent et à côté avoir d'autres projets, je pense que pas mal feraient ce choix-là.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après, il faut quand même être vraiment, pour avoir expérimenté les deux, du coup, avoir fait half-half et être à fond dans le projet, on va forcément beaucoup plus vite et beaucoup plus loin quand on est à fond dedans. Alors, c'est des risques, hein, c'est des risques et on peut échanger là-dessus. C'est que, à partir du moment où je me suis dit, moi j'ai envie d'expand le truc, comment on peut voir la dentisterie plus large, tu vois. J'avais commencé et je vais beaucoup aux États-Unis, donc du coup, je voyais aux États-Unis ce qui se faisait. Je voyais des super câbles et tout. Je me suis dit, mais putain, pourquoi nous on est des clochards en France? On fait des trucs, ça, c'est vieux comme le monde, ça pue. L'expérience n'est pas là. Et donc, je me suis dit, moi, je veux déjà, pour commencer, je vais apporter une expérience dans mon cabinet à ma petite échelle. Et là, j'ai commencé à faire du quasiment du cas par cas, quoi. Ça veut dire que je connaissais mes patients par cœur et je savais quelle musique il aimait, quelle ambiance il appréciait, est-ce qu'il était stressé, pas stressé, quel langage je devais adapter, est-ce que je pouvais lui parler de manière très éloignée ou au contraire jouer le côté un peu plus proche et plus familier, disons, parce que ça le rassure et qu'in fine ça impacte le business au final, parce que l'idée c'est quand même de le traiter.
Donc t'avais compris les fondamentaux de l'expérience patient, quoi.
Exactement, finalement. Parce qu'au final un patient qui a peur, même s'il a plein de choses à faire, il fait rien. Et s'il fait rien, alors c'est un peu tabou ça dans le médical de parler de sous, mais moi je m'en fous. Au bout d'un moment, ça reste un job, ça reste un métier. C'est l'économie de la santé, mais ça reste l'économie, ça reste un échange d'argent. Donc pour moi, à partir du moment où il y a de l'échange d'argent, c'est économique. Et si le gars a peur de ce que tu lui annonces, tu vas pas le soigner. Si tu le soignes pas, tu prends pas d'argent. Si tu prends pas d'argent, tu payes pas tes frais de cabinet qui sont monstrueux quand tu te lances. Donc au bout d'un moment, tu fermes, quoi. Tu fermes, je sais pas, une radio, ça coûte 100 000 balles. Donc au bout d'un moment, il faut se dire comment je vais faire comprendre à ce gars-là que c'est pas si ouf ce qu'il y a à faire, avec des termes un peu vulgaires, pour justement qu'il accepte le plan de traitement. Déjà, moi je suis content parce que je vais le soigner, je vais lui corriger ses trucs, etc. Lui, il va être content, mais surtout, il va pas avoir peur. Et je change ce rapport au dentiste, où le dentiste fait peur, le dentiste fait mal, le dentiste ça pue, c'est chiant, c'est en retard, tout ça. Et j'ai pris tous ces pain points et je les ai killés un par un. Tac, tac, tac. Ça, j'enlève. En retard, je suis plus en retard. Ça, hop, j'enlève. Et au final, bah, ça impacte déjà sur l'attitude. J'ai énormément de patients qui m'ont envoyé d'autres patients. Et bien entendu, du coup, sur le business. Ouais. Parce que du coup, bah, le planning se remplit, tu fais tes actes, t'expliques bien, tout le monde est content. Et là, tu commences à comprendre que quand t'as modifié un aspect d'expérience ou un aspect de langage, eh ben, tu arrives à impacter sur le business, quoi. Nous, on ne peut pas faire de pub, etc.
Ouais, pour retracer un petit peu, quand tu t'es rendu compte, quand tu as fait ce constat-là et que tu as vraiment décidé de changer cette expérience patiente, tu étais où? Tu étais à ton compte ou tu travaillais pour qui?
J'étais encore en cabinet, j'étais pas à mon compte parce que je me suis pas, bah, je pouvais pas prendre un cabinet direct. Par contre, j'étais avec mon frère, comme je t'ai dit, c'était mon frère qui était dentiste, et on bossait ensemble, on bossait super bien. Il m'a appris plein de trucs, j'ai vraiment apprécié de bosser avec lui. Et après, au bout d'un moment, je suis parti en vrille, quoi. Moi, je voulais faire mon entrepreneur. Je lui ai dit, vas-y, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça, faut qu'on modifie, faut qu'on prenne plus grand, faut qu'on. Et il m'a dit, attends, 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 calme-toi, tu pars trop en vrille. Et donc, je me suis calmé 6 mois. Et après, j'ai dit, je peux pas, faut que je fasse autre chose. Et il faut que je voie plus grand ce truc-là. Je peux pas rester comme ça, moi, juste à faire mon petit truc dans mon coin. Faut que je casse les codes, faut que j'essaye de faire un truc plus global. Et à ce moment-là, en effet, les centres dentaires commençaient à éclore en France. Voilà, ça a commencé, si je dis pas de bêtises, autour de 2014, 2013, 2014, un truc comme ça. Ouais, 2013 plus. Et voilà, ça commençait à faire son petit bout de chemin, mais c'était tout de suite vraiment une bad image où c'était, voilà, c'est low cost, il y a eu plein
Ouais,
de.
c'est grand, c'est pas humain, c'est
C'est
ça, ouais.
ça, il y avait plein d'affaires qui passaient sur Enquête Exclusive, la grosse passion, où tout le monde regarde comment les dentistes font de l'argent sur le dos des gens, tu vois. Et donc je regardais ces trucs-là et ils se faisaient mais casser la gueule, les centres dentaires. Sauf que, en fait, ce truc-là existe ailleurs, mais depuis hyper longtemps. Enfin, nous, on est en retard en France. En Italie, en Espagne, ça, c'est depuis des lustres. Aux États-Unis, le fait d'avoir un gros cabinet comme ça, global, pluridisciplinaire, etc., c'est hyper courant. Et nous, on était juste bah, late, comme d'hab. En tout cas, dans mon domaine. Et j'ai vu ça, je me suis dit, putain, il faudrait en fait faire cette même chose, mais avec une super image, avec un super service, avec un super soin. Et voilà. Et donc, j'ai commencé à cogiter sur ce truc-là. Il y a donc mon associé actuel avec qui on parle depuis 10 ans, en fait. À la base, ce gars-là, c'est un des meilleurs amis de mon grand frère, et qui était mon prof de prépa en médecine. Donc c'est comme ça qu'on s'est connus. Et donc on s'est gardé contact, etc. Puis in fine, il me dit, voilà, écoute, je vois un peu ce que tu fais, je vois que tu essayes de faire des trucs, je vois bien un peu comment tu travailles en cabinet, tu modifies les choses, etc. Et moi, je lui ai dit, voilà. Et lui, il faisait des centres dentaires. Il avait commencé le truc, donc Clinadent. Il avait commencé les centres dentaires. Et moi, je vais le voir et je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire mon truc, etc. Si tu me donnais des conseils et tout. Et donc, on a commencé comme ça à échanger. Puis il m'a dit, écoute, et moi, ah oui, pardon, aparté, c'est que je bossais aussi un peu pour lui dans un de ses centres à côté pour faire double
D'accord,
expérience, en
ok.
fait, l'expérience cabinet haut de gamme.
Il y avait combien de cliniques?
À ce moment-là, il va y en avoir peut-être 4, 3, 4, 4, ouais, un truc comme ça.
Ok.
Au moment où je bossais avec lui, ouais, il y en avait 3,
Ouais,
4.
donc il y avait déjà des challenges sur l'expérience à
Ouais,
travailler, quoi.
et c'était vraiment ce mood qui était là, tu vois, qui était, bon, bah, les centres dentaires, malheureusement, c'est low cost, etc. On part un peu sur ce truc-là. Et il m'a dit, écoute, moi, je bossais avec lui déjà depuis 1 an. Plus on se connaissait depuis longtemps, il m'a dit, écoute, Léo, c'est logique que tu viennes rejoindre l'aventure pour moi, qu'est-ce que tu en penses? Donc on a échangé, puis comme un accord, on s'est dit, ok, go. Mais seule condition pour moi, c'est que je prends tout ce qui existe et je level up à fond. Parce que moi, je ne me suis pas cassé la tête à apprendre les meilleures compétences en dentisterie, à les mettre dans du haut de gamme, etc., pour au final faire du low cost ou juste des trucs bâclés. C'est vraiment pas ma façon de faire et c'est pas sa façon de faire non plus, mais il fallait que tout le monde le sache. Et pour ça, j'ai dit, bah voilà, on prend tout, on level up, et si oui, dans ce cas-là, je suis chaud de rejoindre. C'est comme ça que j'ai commencé mon aventure chez Clinadent et qu'on a commencé à bouger un peu les process d'expérience. C'était pas simple, mais voilà.
Est-ce que tu peux nous raconter du coup le process toi pour bah, justement transformer donc l'expérience, à quoi ça ressemble déjà comment dire, une patient journey avant et après? Et en gros, est-ce qu'il y a vraiment des apprentissages qu'on pourrait tirer à peu près dans n'importe quelle industrie pour l'appliquer à la santé en fait?
Ouais, bien sûr. Ce que j'essaye de faire, moi, c'est que, alors, il y en a qui adhèrent, il y en a qui adhèrent pas. Bon, mais c'est ma façon de faire. Je sais pas si c'est la meilleure ou pas. En tout cas, c'est la mienne. Mais c'est que j'essaye de voir ce qui se fait hors dentisterie, un spa, une boutique de téléphone, Apple, Amazon. J'essaye de vraiment voir tous ces trucs-là, ou mes potes qui font des trucs géniaux. Et j'essaye de voir ce qu'ils font, leur expérience. Et je me dis comment je peux importer ces codes dans mon domaine où tout est ultra processé, tarif, carte vitale, questionnaire, machin, un peu archaïque, c'est papier, c'est tout l'écosystème médical en France. Et alors maintenant, ça a beaucoup bougé avec Doctolib, avec Alan, etc. Mais avant ça, c'était archaïque. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux apporter tous ces trucs que je vois ailleurs pour l'amener en dentaire? Et pourquoi je voulais des trucs qui viennent pas du dentaire? Parce que je voulais qu'ils se sentent pas chez le dentiste. Moi, mon premier truc, mon premier objectif, c'est que quand ils rentrent dans une clinique, limite, ils ressortent et ils se disent, merde, je suis pas arrivé au bon endroit, quoi. Est-ce que c'est vraiment une clinique dentaire ici ou c'est un spa, c'est quoi? Et c'est vraiment mon objectif. Et du coup, j'essayais d'apporter plein de petites touches de choses que je voyais ailleurs et j'essayais de les adapter. Alors parfois c'était génial, parfois c'était des erreurs. Et après, bah, le problème, c'est pas de faire l'erreur. L'idée, c'est de faire l'erreur, mais de la rectifier vite. Se tromper, il n'y a pas de problème à se tromper, mais voilà, faut se tromper, apprendre et rebondir. Et en fait, j'ai apporté tous ces trucs-là. Donc, premier truc qu'on a fait, c'est que, bah voilà, les cabinets, premier truc, c'est que ça sente le dentiste. Bon, bah ok, faut pas que ça sente le dentiste. Donc, je voulais mettre une odeur, mais du coup, je vais pas mettre n'importe quelle odeur. Je voulais vraiment l'expérience à fond. Donc, j'ai été visiter les plus gros palaces parisiens et je regardais les odeurs qu'ils mettaient. Et quand j'ai trouvé une qui me plaisait vraiment, j'ai cherché un peu où ils cachaient leur truc. J'ai chopé le j'ai chopé le Bah, le contenant, quoi.
Le nom,
Et j'ai été le chercher, je l'ai remis, j'ai fait un test sur une clinique, hop, ça a porté ses fruits, boum, on expande. Et
d'accord, ok, c'était ça ma question. Ouais, comment tu vraiment vas tester ça et après vérifier, récupérer le feedback des patients parce que tu vois, ils vont pas forcément le dire eux. Du
ouais.
coup, comment tu fais pour savoir ce qu'ils en pensent? Tu vas les voir, tu leur demandes ça va, ça sent
Ouais.
bon? Ou
Ouais, bah
tu fais comment?
en fait, ce que je fais, c'est que bah, j'étais hyper proche des clients, enfin des patients du coup. J'étais hyper proche des patients. Ça veut dire que j'étais, et ça fait partie du job du COO, tu vois, d'être operating, c'est d'être dans l'opérationnel, d'être tout le temps sur le terrain, etc. Et au début, j'étais vraiment 24/24 terrain. Et je regardais, tu vois, j'observais les patients dans la salle d'attente. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils agissent quand ils sortent du soin, dans quel état ils sont, est-ce qu'ils sont contents, pas contents, déçus, complètement barbouillés, etc. Et je leur posais la question, alors ça a été, alors qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, on a ouvert il y a 6 mois ici, ça vous fait quoi? Comment vous nous avez connus? Ah, mais non, et direct, c'est ah, ben c'est génial, en plus j'ai vu que ça sentait bon, direct, hop, je leur mets pas la puce à l'oreille parce que ça serait trop facile. Est-ce que ça sent bon? Oui, bon, ben ok, merci. Non, j'essaye de pas biaiser le
On
truc,
n'est
j'essaye de voir si ça
pas un
vient d'eux.
questionnaire quand t'es un humain.
Ça vient d'eux, voilà. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, versus votre dentiste? Parce que forcément, c'est des gens qui viennent, qui ont déjà eu un dentiste dans leur vie, tu vois? Donc,
Ouais, et ça, je pense que c'est intéressant parce que justement, c'est généralement, il n'y a pas cette personne qui va faire le petit truc en plus humain. Parce que bah, généralement il faut que ça enchaîne. Il y a, comme tu disais, un process qui est vraiment déjà bien mis en place. Et on voit de plus en plus dans certaines industries qui se digitalisent très vite, bah, avoir justement des personnes qui avant étaient à des postes automatisés, enfin qui ont été automatisés en fait. Tu vois, avec les caisses en libre-service par exemple, on va avoir ces personnes-là qui vont être en plus à l'accueil et qui vont vraiment t'orienter, te poser des questions. Et je pense que ça, dans la santé, on peut en tirer pas mal d'apprentissage.
Bien sûr, tu vois, ça typiquement les caisses. Alors nous c'est un desk d'accueil et pendant un moment je me suis dit ça serait génial de mettre des bornes où le mec vient, il sélectionne son créneau, son truc, tu vois. Il le fait tout seul. Et il s'installe en salle d'attente et go, et ça passe, tu vois. Et comme ça, t'as moins la friction avec l'accueil, le retard. Attends, faut que je rentre mes papiers, etc. Il y a quelqu'un qui est avant moi. Il y a plein de freins qui peuvent être là. Tu vois, par exemple, tu arrives 10 minutes en avance, disons pour ton rendez-vous. Mais il y a aussi le patient qui arrive à l'heure, voire en retard. Et toi, bah, du coup, tu passes 10 minutes alors que tu es en avance à patienter pour passer, tu vois. Alors, heureusement, c'est ponctuel et c'est rare, mais ça arrive. Et donc, je me suis dit, comment je peux régler ce truc-là? Et j'avais commencé à réfléchir à ce truc de borne, tu vois. Mais en fait, le mindset n'est pas prêt. Les gens, pour le moment, à mon avis, ouais, ils ne sont pas encore prêts. Ils ont besoin d'échanger. Parce que déjà, la médecine, c'est compliqué. Hormis le dentaire, oublie le dentaire. La médecine, c'est compliqué. Tu vois, il y a des termes qu'on ne comprend pas dans les devis, qu'on doit nous expliquer, ou il y a des termes qu'on ne comprend pas quand on nous dit il nous faut votre dans la carte vitale, pourquoi est-ce qu'elle est à jour, pas à jour, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que mes droits sont encore ouverts, quand je suis à la CMU, comment ça se passe. Et ça, une borne ne te répond pas. Alors oui, tu peux mettre plein de trucs en place, mais je pense que les gens ont besoin encore aujourd'hui d'un interlocuteur humain. Mais je pense que ça va évoluer avec le temps. Moi, je pense qu'on va arriver à ce truc-là, avec les bornes, etc. Je pense qu'on va y arriver.
Et je pense que, ouais, on est pas mal en retard dans pas mal de choses sur la santé et l'accès à l'information. Tu vois, on a l'impression de pas vraiment comprendre le système de soins. Et donc, du coup, ça freine, en fait, la digitalisation sur des trucs qui auraient pu être là depuis longtemps, tu vois.
Ouais, mais carrément.
Qu'à partir du moment où on aura enlevé ces barrières un peu dans l'esprit des gens, qu'en fait la médecine et les soins, tu peux y accéder facilement et que on pourra enlever toutes ces frictions dont tu parles. Et je pense qu'on ira beaucoup plus vite. Mais bon, ça, c'est un travail.
Ouais, voilà, c'est de l'éducation en fait. Faut éduquer au fur et à mesure les gens. C'est comme les centres dentaires. Au début, personne ne voulait y aller, etc. Puis maintenant, je suis très contente de ce qu'on a réussi à faire. Et tout à l'heure, tu disais, voilà, tu t'as introduit, tu nous diras comment tu as réussi à booster le truc. Je suis pas seul et c'est toujours le résultat et le fruit d'un travail d'équipe. Et voilà, mais en tout cas, je pense qu'au fur et à mesure, les gens vont être éduqués à ces choses-là. Mais par contre, une fois que ça va commencer, ça va aller à 250 km/h. Tout le monde va s'y mettre d'un coup, parce que au-delà, et ça, je pense, que c'est vrai dans tous les domaines, au-delà du médical, la gestion humaine, c'est très compliqué. Voilà, dans l'entrepreneuriat, faut dire les choses. On dit toujours le beau, le c'est génial, les levées, les trucs, ça scale, les courbes à trois chiffres, etc. Bref, mais ce qu'on dit pas, c'est tout ce qu'il y a derrière, comment on est en transe, comment on est en eau, quand il y a un truc qui manque, on dort pas, et la gestion de l'humain, c'est dur, parce qu'en fait, tu veux toujours faire le meilleur pour tout le monde. Et forcément, tu ne peux pas donner raison à tout le monde ou faire plaisir à tout le monde. Et j'avais lu un truc une fois qui disait que quand tu commences à dire non à quelqu'un, enfin, quand tu commences à dire non tout court, tu vas commencer à énerver les gens. Quand tu commences à dire non à quelqu'un, il va s'énerver, il ne sera pas content. Les gens aiment qu'on leur dise oui. Et en fait, quand quelqu'un va faire un truc, une erreur, tu dis « Attends, il ne faut pas faire comme ça, etc. » Tu ne peux pas faire des choses comme ça. Il faut que tu sois… dans l'organisation, comment c'est procédé, parce que sinon, toute l'organisation qu'on a mis en place, ça fout en l'air le système. Les gens ne comprennent pas, ils viennent d'un milieu où pareil, tu vois, ils viennent du dentaire, ils viennent des cabinets, ils viennent des hôpitaux, mais ils ne viennent pas d'entreprise. Tu vois, il y a ce truc-là qu'il faut en plus leur ajouter. Alors déjà qu'il faut prendre des gens qui viennent du médical, en plus, inculque-leur au fur et à mesure des infos d'entreprise, ou d'organisation d'entreprise, mais c'est un travail monstre. Et alors que...
Est-ce que tu pourrais nous expliquer justement comment toi tu arrives à faire en sorte que cette culture de l'expérience patient qui est au centre de ce que vous faites chez Clinadent soit la même, soit partout la même dans les différentes cliniques, parce que il y en a combien aujourd'hui en France?
Aujourd'hui, il y en a 14.
Ok, comment tu fais en sorte que dans les 14 cliniques, toutes les personnes qui accueillent des patients délivrent la même expérience à chaque fois?
Je pense que ça s'inculque au fur et à mesure, parce que un truc qu'on oublie, c'est que on parle de culture, mais en France, alors on parle des cultures en différents pays, mais c'est pas besoin de changer de pays, rien qu'en France déjà il y a différentes cultures. Moi je prends l'exemple de Paris-Marseille où nous on bosse beaucoup. La culture entre Paris et la culture à Marseille est diamétralement opposée. Voilà. C'est un fait. Par contre, il faut que l'expérience patient, elle, soit la même. Mais je pense que cette expérience, mine de rien, aura un petit peu d'ingrédients marseillais, tu vois, et un petit peu d'ingrédients parisiens qui vont faire cette entièreté. Comment on fait, nous? En fait, dès que j'ai une idée en tête où je veux tester l'expérience, on le fait sur un ou deux centres tests, généralement deux, parce qu'il y en a un, par exemple, qui va être dans des beaux quartiers, type Louvre, Place Victor Hugo, etc., et d'autres où ils sont un peu plus populaires, Courbevoie, National à Marseille, etc. Et en fait, on fait un test dans un des deux, enfin, dans un de chaque, pardon, et on voit si ça fonctionne. Par exemple, il y a des trucs que tu vas mettre en place qui fonctionnent bien dans des quartiers où ça s'y prête et qui fonctionnera beaucoup moins dans d'autres, tu vois. Je te donne un exemple tout bête. Nous, on est parti sur un postulat de mettre du marbre dans la clinique, du marbre blanc et du marbre noir, parce que je veux que quand ils rentrent, voilà, ils se sentent directement embarqués. Mais typiquement, le marbre, je ne l'ai pas mis à Bagnolet et je ne l'ai pas mis à National à Marseille pour la raison que d'un côté, ça attire des gens et de l'autre, ça leur fait peur. Il y en a qui ça fait peur où ils vont se dire « Ah, mais attends, c'est super beau, du coup, ça doit être super cher. » Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, pas du tout. Les prix sont les mêmes, l'expérience est la même, mais il faut s'adapter aux gens avec qui tu es en contact, tu vois. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir ça, ça risque de le brusquer, de le froisser un peu.
Donc, comment tu, justement, donc d'un point de vue business model, comment tu justifies, toi, ces dépenses-là si les prix sont les mêmes? Est-ce que le positionnement est forcément haut de gamme quand on veut fournir une expérience hors du commun, tu vois, le marbre, tu parles de marbre, ça a un prix, tout ça.
Ouais.
Si tu veux acheter des parfums pour tous tes salons, ouais. Si tu veux mettre des écrans sympas, etc., tu vois.
Alors, il y a un truc qui est super cool, tu vois, quand t'as beaucoup de cliniques, c'est qu'à la différence avec un cabinet, c'est que t'as les échelles d'achat, en fait. Plus t'achètes,
ouais.
Plus, moins c'est cher. Donc du coup, si tu veux, la renta est moins impactée. Bien entendu, certains actes sont au même tarif, mais il y a d'autres types d'actes, je prends l'exemple d'esthétique ou des choses comme ça, qui sont à un tarif bien plus élevé, qui sont hors du soin. Ça va être de la demande esthétique, etc., type des facettes, exemple. Eh bien, ça va être un peu plus cher. On va axer aussi un peu nos patients là-dessus. S'ils demandent, on est très à jour sur le sujet. Et en fait, ça, on fait nos calculs, et bien entendu qu'on ne va pas juste dépenser comme des fous, on va voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme... Parce que dans ce cas-là, ça peut partir en vrille, tu peux mettre un valet devant qui vient te garer ta voiture là où c'est difficile de se garer dans Paris, on peut partir très loin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux envoyer des chauffeurs pour ceux qui n'ont pas de boîte. Enfin, tu peux partir en vrille. Enfin, c'est mon expérience Dubaï qui parle, où j'ai vu ces trucs-là. C'était dingue. Mais là-bas, ça s'y prête. Tu vois, en France, ça ne s'y prête pas. Mais tu vois, il faut avoir le juste milieu. Tu vois, il faut que ça soit pile ce qu'il faut. Et haut de gamme, qu'est-ce que c'est? Haut de gamme, est-ce que c'est juste des prix chers? Je pense pas. Je pense que haut de gamme, c'est une expérience. C'est une expérience qui est haut de gamme. Je pense que c'est des soins qui sont haut de gamme. Les dentistes sont haut de gamme. Tu vois, nous, on sélectionne les dentistes. Encore au jour d'aujourd'hui, c'est nous, les fondateurs. Parce que les trois fondateurs, on est dentistes de formation. Tu vois. Et donc, c'est encore nous.
Ouais, donc vous avez ces skills pour savoir qui sont les meilleurs dentistes.
Exactement. Et on présélectionne. C'est-à-dire que moi, je leur fais des examens. Je leur fais limite un examen, un CSCT de sortie de fac. Pour être sûr que les patients que je leur mets entre les mains, c'est carré. Je prends zéro risque. Je préfère prendre plus de temps à choisir un praticien, mais au moins lorsqu'il arrive, c'est carré. C'est propre et le patient, il repart avec son soin haut de gamme, avec un praticien haut de gamme qui lui explique les choses comme il faut. Quand je dis haut de gamme, voilà, vraiment, c'est haut de gammiste le vrai terme. Parce que haut de gamme, ça fait tout de suite penser à cher, inaccessible, etc. Et au contraire, moi, ce que je voulais, c'était rendre accessibles les soins de haute qualité au plus grand nombre. Parce que, bien sûr, tout le monde sait, le dentiste, c'est cher. Le dentiste, c'est pas que c'est cher en soi, c'est que c'est moins bien remboursé par la sécurité sociale que d'autres soins médicaux. D'accord ? C'est ça qu'il faut intégrer aussi. Ok ?
Lionel, moi, j'ai des petites questions sur, justement, la croissance de Clean à dents.
Ouais.
Comment tu fais pour accompagner la croissance en tant que COO? C'est quoi ton rôle? Et notamment, quels sont vos objectifs, vous, en termes d'ouverture de clinique dentaire? Et comment tu fais pour former autant de personnes et garder donc cette ligne directrice au fur et à mesure que tu vas grossir?
Alors, comment on fait? Déjà, il y a... Il y a multiples axes, mais la formation est un gros sujet. La formation est un gros sujet parce que il y a beaucoup de métiers dans notre domaine qui sont nouveaux. Je prends l'exemple d'un métier de coordinatrice de soins, celle qui accompagne le patient, tout ce qui est administratif, etc. C'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Donc ça, c'est des gens qu'on doit former, qu'on doit accompagner. Et je pense que c'est un vrai sujet pour garder la qualité d'expérience qu'on donne dans les cliniques. Et ça va à tous les postes, parce qu'on fait aussi une veille de formation sur nos praticiens, sur les assistantes, etc. On est vraiment à cheval là-dessus. Et ça, c'est un truc qui, pour moi, est super important pour garder l'expérience. En termes de croissance, en objectif, on va avoir pour cette année, on est à 12 ouvertures en objectif.
D'accord.
Ouais.
Donc quasiment doublé, quoi.
Ouais. Ouais, là, on va passer la seconde. Et c'est un vrai objectif que je pense qu'on va réussir sans problème. Mais ça passe par, alors là, la difficulté, tu vois, où maintenant, si tu veux ouvrir un centre, faire une activité, l'expérience, c'est plus le problème. Là, on en est sur un problème qui va arriver, qui est plus entrepreneurial, gestionnaire, etc. Ça va être la croissance d'équipe interne. Comment garder cette cohésion et de culture et de façon de travailler et de communication lorsqu'une équipe, quand je dis équipe interne, c'est l'équipe qui est au bureau, tu vois, au siège, quand ça passe de 12, 15 personnes à 30, 35, tu vois, c'est pas du tout la même façon de travailler.
Il y a combien de personnes au total qui travaillent au siège et dans le réseau, donc à travers les cliniques?
Dans toutes les cliniques, on doit être autour de 240, en tout chez Clinadent, on doit être 240. Dans les transversaux, je n'ai pas le chiffre exact, mais ça doit être, alors je vais te dire, ça ne bouge pas, on doit être 40.
D'accord, ouais, donc c'est quand même énorme, et j'imagine que donc doubler ça, ça ne veut pas forcément dire doubler le staff, parce que sinon ça serait...
Ouais, en fait, et c'est des postes clés qu'il faut entrer, et tu arrives à un stade où ces postes clés que tu dois entrer sont pas du domaine dentaire, tu vois. Tu vois, il faut des gars,
tu vas avoir des managers,
et qui ont ces skills, mais qui, lorsqu'ils vont intégrer, vont devoir apprendre le dentaire, apprendre les codes, apprendre la sécurité sociale, apprendre le fonctionnement, comme on parle à un patient, si lui n'est pas content, pourquoi? C'est pas juste un customer à qui on peut dire, je t'envoie un super goodies, tu vois, t'es content. Non, c'est de la santé. Là, tu fais un problème, c'est un problème santé, tu peux pas déconner. Nous, on a moins. Et ça, c'est un truc qui est fou quand je le vois avec l'extérieur, avec d'autres business. Nous, c'est de la santé, tu peux pas te foirer. Tu vois, tu peux pas dire, ok, le t-shirt, il est arrivé déchiré, ou lui, il a reçu son portable cassé, on en revoit un autre. Non, tu peux pas déconner. Donc, et c'est d'autant plus de pression, tu vois, sur l'exercice. Nous, moi, je sais qu'on est ultra alerte sur les retours patients et que quand il y en a un qui n'est pas content, mais c'est ouf, quoi. Ça a un effet, pas boule de neige, c'est un effet monstre par rapport à ce qui se passe parce que le patient, en fait, son ressenti est colossal versus ce qu'il a réellement. Je vais te donner une anecdote qu'on a eu récemment. Un patient est reparti d'un soin, puis il avait mal. Et il était fou, il est devenu fou le patient, c'est n'importe quoi, etc. Bref, je ne t'ai pas ces détails. Et in fine, quand on creuse, en fait, il s'avère qu'il y avait juste un point de polissage à faire et tout est rentré dans l'ordre. Ce décalage, tu vois, entre le ressenti patient et ce qui se passe réellement, c'est exactement le même décalage entre on reçoit un commentaire patient et boum, l'effet que ça a sur nous, ça nous impacte réellement parce qu'on veut que l'expérience soit bonne à 100%.
Lionel, on arrive vers la fin de cette discussion. Je pense que t'as partagé des conseils assez pertinents, notamment sur le fait de pas rester focus sur la médecine, la santé, le dentaire, et vraiment un peu ouvrir ses, bon, on va dire ses yeux à d'autres industries, ce qui se fait, voir ce qui se fait ailleurs dans le monde entrepreneurial, comme dans, bah, on va dire n'importe quelle industrie en général. Ça serait quoi, toi, ton conseil pour terminer, ton conseil à quelqu'un qui monte une entreprise dans la santé et souhaite mettre l'expérience patient au cœur de ses valeurs?
Mon conseil, ça serait, c'est qu'il faut être, pour comprendre l'expérience patient, il faut être enfin, ça va peut-être être bateau, en vrai, c'est même pas que dans la santé, mais il faut être au plus proche du patient, mais aussi du côté pro, du côté médical, pour vraiment comprendre ce qui se passe, parce que nous, on est dans la santé, c'est quand même quelque chose qui reste assez flou pour le commun des mortels qui n'ont pas fait ces études, etc., qui vont pas comprendre exactement tout ce qu'on leur dit. Par exemple, tu prends à l'inverse, tu dis, bah voilà, ce téléphone, il s'allume comme ça. Bah, je te donne un soin qu'il y a à réaliser. Là, tu as une chance sur deux que le patient comprenne à moitié ou comprenne pire, comprenne quelque chose d'erroné, tu vois. Et c'est là où il faut être super focus, et il faut avoir aussi le côté praticien pour avoir ce recul. Parce que sinon, si on se focus juste sur ce que dit le patient, bah forcément, on va avoir des retours erronés à un certain moment, puis on ne répondra pas de la bonne manière. Je pense que si j'ai un conseil sur ça, c'est ça.
Merci, merci à toi, Lionel, et puis à très vite.
Merci beaucoup pour ce podcast. Ciao.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.